Moulin, le maire de La Chevrolière et président de la communauté de communes de Grandlieu Communauté. Vous souhaitez la parole.
Monsieur Bassène, après.
Merci, monsieur le préfet. Écoutez, oui, je souhaitais juste prendre la parole pour rappeler l'engagement qui a été exprimé lors de cette réunion qui avait été prise par le ministre des Transports sur la modification du point de virage qui permettrait de limiter les nuisances sonores pour à peu près 3000 habitants de la commune. Donc, je tiens à saluer les échanges qui ont pu avoir lieu entre la préfecture et la DGAC avec notre collectivité et la collectivité de Saint-Philbert-de-Grandlieu qui était concernée, et vous dire notre souhait de pouvoir voir mise en œuvre quelque part cette modification du point de virage. Il restera à apporter des réponses aux communes de Geneton et de Saint-Colomban, compte tenu du fait que, à la modification du point de virage, a été proposé un double point de passage qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec une concentration en un même lieu du passage des avions décollants face au sud. Et qui peut impacter Geneton et Saint-Colomban, alors que jusqu'à présent, ils avaient un passage diffus qui semblait moins les déranger. Donc voilà, c'est aussi quelque part un temps d'échange qu'il faudra avoir avec nos deux collègues, mais renouveler mon souhait vraiment de mise en œuvre de cette modification du point de virage. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Bassem Assé a demandé la parole pour la ville de Nantes. Monsieur le Premier adjoint, à vous.
Bonjour et merci. J'avais une question qui correspond à l'une des diapositives. Je crois que vous l'avez montré, mais je ne voudrais pas me tromper dans les calculs. J'avais compris que actuellement, dans la situation actuelle, nous avons 40% des cas lorsqu'on est face au sud et 60% lorsqu'on est face au nord. Ce que je n'ai pas noté, c'est les pourcentages dans la solution proposée pour demain. Je ne sais pas si c'était dit explicitement sur la diapositive ou pas, mais si l'information existe, je suis preneur. Merci.
Je vais déjà répondre. Hein. Je donne la parole à M. Lacorte pour qu'il réponde déjà à cette première série de questions et on pourra en prendre d'autres, évidemment, ensuite.
Merci, M. le Préfet. Merci à tous pour ça. D'abord, pour l'atelier, enfin, Monsieur Ravier, en tout cas, effectivement, nous orientons sur un projet qui est sobre. L'État a fait un certain nombre d'estimations de coûts, 450 millions d'euros hors taxes pour le réaménagement tel que nous l'estimions, et ça, c'est le chiffre que nous avons indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence que nous avons lancé en octobre 2019. Après, il appartient aux candidats à cet appel d'offres de proposer un prix et d'estimer un coût en fonction du projet qu'ils proposent. J'allais dire, d'une certaine manière, c'est leur affaire. Nous, notre intérêt, c'est qu'ils ne coûtent pas d'argent public, et c'est bien l'engagement que nous avons pris. Ce réaménagement sera réalisé sans subvention publique. Et par ailleurs, l'argent qui a été apporté par les compagnies aériennes en vue de l'ancien projet, puisqu'elles ont payer un certain nombre de sommes de préfinancement pour des investissements aéroportuaires, sous réserve de l'approbation par les autorités compétentes, et je pense notamment à la Commission européenne, cet argent-là sera affecté au réaménagement de Nantes Atlantique. Voilà, donc je pense qu'on a aujourd'hui une équation financière qui est tout à fait réaliste, et j'en veux pour preuve que les candidats à l'appel d'offres sont très mobilisés pour faire des propositions, et ils travaillent en ce moment. Ensuite, vous aviez une question sur l'emport. J'entends ce que vous dites. Alors, je ne connais pas particulièrement les chiffres à Beauvais. Pour ma part, je fais confiance à notre service d'études et de prospectives. Donc, vraiment, c'est le métier qui a travaillé sur ces projections beaucoup plus que moi-même. Je ne serais capable de le faire. Ce que je tiens à vous dire, en tout cas, au-delà des chiffres, c'est qu'effectivement, il y a un effet mécanique d'augmentation de l'emport parce que les modules opérés par Transavia sont supérieurs à ceux opérés par Hop. On peut discuter du nombre précis. Il faudrait faire attention aussi quand même à ne pas avoir une approche qui minimise le bruit, en fait, et l'appréhension qu'on en a. Et donc, je pense que la position qui est retenue par l'État aujourd'hui est plutôt celle de la prudence. On a affiché un scénario qui est certes volontariste, qui tient compte des évolutions dont nous avons connaissance, mais en même temps qui ne diminue pas le bruit dans le futur de manière qu'on pourrait juger comme excessive. Parce qu'au final, l'enjeu, c'est bien d'avoir des outils, je pense au plan de gêne sonore, je pense au plan d'exposition au bruit, des outils qui protègent les populations et qu'il soit calé sur un niveau de bruit réaliste. Monsieur le maire, donc pour le point de virage de la Chevrolière, je m'en remets bien évidemment aux échanges que vous avez avec mes collègues de la préfecture et du service de navigation aérienne. Je suis ça avec attention évidemment, mais sans être dans l'évolution quotidienne du dossier. Je sais que les échanges sont en cours et que le dialogue avec l'ensemble des élus avance. On est vraiment dans une démarche ouverte, en fait. Là-dessus, l'État, et c'est un exemple de notre approche, est à l'écoute des élus, de leurs attentes, et si nous pouvons y répondre techniquement, nous le ferons avec plaisir, l'enjeu étant, comme vous l'a rappelé, monsieur le maire, d'éviter des nuisances pour les populations des communes survolées. Et donc, c'est vraiment dans cette démarche, d'une part, d'expérimentation, de mesure du bruit, d'objectivation de la situation, qu'on pourra ensuite avancer vers une étape de modification des trajectoires actuelles si c'est vraisemblable, si ce que nous envisageons est globalement favorable. Il y avait une autre question, monsieur le premier adjoint de la ville de Nantes. Alors aujourd'hui, effectivement, la répartition par sens d'utilisation de la piste, c'est 40% d'avions qui survolent le Nord-Loire et 60% qui survolent le Sud-Loire. Demain, avec l'augmentation du trafic et pour des raisons de sécurité et de gestion du flux par le service de navigation aérienne, ce que nous estimons, c'est que cette tendance où la majorité passe au-dessus du sud plutôt qu'au-dessus du nord va s'inverser. Et donc, nous estimons qu'en 2040, on aura 55% du flux qui passera par le Nord-Loire et 45% par le Sud-Loire. Voilà, très exactement les chiffres que nous avons estimés et qui d'ailleurs figurent dans le dossier de consultation de la concertation de 2019.
Merci. Donc il y a de nouveau des questions. Initiative du représentant de Monsieur le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu et ensuite il y a Monsieur le maire qui est en visio avec nous, qui a également demandé la parole. Et puis le président Baudreau du Césaire.
Bonjour à tous. Je suis en charge du aéroport, entre autres. Donc, j'excuse Jean-Claude Levasson qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui ni cette semaine. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait vous poser, mais ça prendrait, je pense, toute la séance. Donc, je ne vais pas vous faire l'injure de toutes les poser. Peut-être en préambule dire qu'il y a une absence de concertation de notre côté qui est réellement un handicap pour avancer sereinement sur le projet. Bon, je sais que vous l'avez exprimé à plusieurs reprises. Les élus qui sont ici présents le savent très très bien, puisqu'on travaille en CCE régulièrement. On a fait une proposition au niveau du PPBE avec des remarques qui ont été votées par les deux tiers de la CCE, ce qui n'est quand même pas rien, c'est-à-dire tout le collège élu associatif. Nous n'avons toujours aucune réponse sur ces propositions, qui sont nombreuses. Je vois que ça n'a pas du tout été pris en compte dans le projet présenté par M. Lacorte. Donc là, la concertation, elle est de façon actée, non visible. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est le ressenti des élus de la commune. Vous pouvez faire un peu hocher de la tête, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Alors, on va commencer sur la protection des riverains, parce que c'est quand même les plus intéressés, je crois, sur ce sujet-là. On a des associations qui vont s'exprimer forcément bientôt. Donc, ce PPBE, pour eux, c'est important de savoir à quoi ils vont être exposés. Et on attend réellement une information à nos questions. Voilà. Ensuite, sur l'environnement, alors, je pense que vous devez en parler un peu plus tard, mais je vais quand même devancer la question. C'est sur le site en particulier et les problèmes d'hydrologie, qui sont un problème énorme pour peu qu'on s'intéresse au dossier. Vous savez tous que la plateforme Nantes-Atlantique est contigu. Et quand je dis contigu, c'est réellement contigu, parce que c'est ce qu'on voit, on voit la surface, mais il y a tout ce qu'on voit en dessous. Et toute l'hydrologie de la plateforme actuellement va ensuite en versant, un bassin versant, vers le lac de Grandlieu. Le lac de Grandlieu, qui est la deuxième réserve en France, voire même la première, avec la Camargue, de protection ornithologique, et j'en passe. Donc on est dans une logique de l'État aujourd'hui à nous dire au niveau national que l'écologie est une priorité absolue. On sort d'une pandémie où il y avait des prises de conscience, et on se rend compte que ça ne pose aucun problème d'allonger une piste de 400 mètres sur un point hydrologique où la loi sur l'eau est forcément piétinée. On a un état d'élu environnemental qui n'a pas du tout respecté les règlements. Nous sommes en contentieux, vous le savez très bien, enfin pour ceux qui le savent, entre la commune et l'État sur ce sujet. Et donc pour nous, c'est une hérésie environnementale que de vouloir rajouter 400 mètres de béton et autres sur l'hydrologie du lac de Grandlieu, puisque c'était dans l'époque pas si lointaine que ça, tout ça c'était de l'eau. Hein. D'accord, on est dans un bassin qui était totalement immergé d'eau, et il n'y a pas besoin de creuser longtemps en dessous de la plateforme pour trouver de l'eau. Ça, c'est un point important sur lequel on n'a aucune réponse depuis des années maintenant. Ensuite, il y a l'urbanisme des communes. Il faut quand même savoir que les deux communes les plus concernées, que sont Bouguenay et Saint-Aignan-de-Grandlieu, sont très, très meurtris sur le maintien de cet aéroport, et surtout avec une vision de le multiplier par 3, 4 à terme sur le trafic. Ça veut dire beaucoup de gens effectivement impactés. Là, pour l'instant, on a une aide aux riverains qui est sur le droit de délaissement, qui est finalement très faible, puisqu'on est sur des chiffres qui sont plutôt bas aujourd'hui. On sait tous que l'aéronautique va continuer de progresser, et que la vision qui était prévue à Notre-Dame-des-Landes, je le rappelle, à 9 millions de passagers, aujourd'hui on parle de 15 millions sur un aéroport qui est dans zone urbaine, avec un survol de la totalité de l'agglomération nantaise. Totalité. Voilà. Alors juste un petit aparté quand même, quand vous dites que ça va faire moins de bruit que par rapport à l'approche directe, le fait de pouvoir faire une approche double. Moi, je vous pose la question de savoir, pour les Nantais, les Nantais qui vont être survolés, du coup, pour la première fois, ceux qui habitent le centre-ville, ils vont être quand même dans 25% des cas survolés. Je vois pas où est la réduction de bruit pour ces gens-là. Alors certes, ils n'auront pas 50%, mais pour l'instant, ils avaient zéro. Okay, donc là, maintenant, vous avez 25%. Et vous maintenez 25% sur tout un autre quartier de Nantes, donc en fait, vous multipliez par deux les gens impactés. Et oui. Alors, ils ne sont pas impactés autant au sens LDN jour, mais ils sont impactés de façon plus nombreuse. Alors moi, j'aimerais... On va faire des calculs, parce que les calculs sont complètement, on le sait depuis le début, orientés. On a essayé de nous faire croire qu'il y a moins de bruit sur l'agglomération nantaise. Bon, certes. Vous profitez aussi de la crise du Covid pour dire, vous voyez, il y a moins de trafic. OK, on sait très bien que c'est très temporaire et que le projet de maintien et de réaménagement, d'allongement de la piste, lui, il est pour des décennies. On ne sera plus là, tous, après, hein, quand il sera encore. Et là, qui peut bien dire quel trafic on aura à ce moment-là? Moi, je peux vous le dire, parce que je connais très bien l'aéronautique, que j'ai travaillé à son développement. Airbus prévoit 4 fois plus d'avions d'ici à 2040-2050 dans le monde. Vous avez très bien dit, on a besoin d'une plateforme économique avec des transports rapides, en plus du fret. Vous avez rajouté le fret en plus, très bien. À destination des villes européennes, à destination, on aura certainement un transatlantique aussi, puisque Airbus est en train de travailler sur un A320 Neo amélioré qui pourra faire un Nantes-New York directement. Donc nous faire croire que le trafic restera à 11 millions de passagers en 2040, c'est une bêtise. Très bien, voilà. Bon, on sait très bien que les évolutions économiques, regardez le cours d'Airbus en bourse, il avait effectivement beaucoup descendu il y a 2 ans, il a repris totalement son... Parce qu'ils savent très bien que le projet de développement, il est très important. Dernière chose, parce que je ne veux pas mobiliser la parole trop, on n'a pas réellement de réponse non plus sur les accès à notre commune. Là, vous sacrifiez un centre-bourg en termes urbanistiques. On se prépare gentiment à être le nouveau Goussainville 60 ans après. faut le faire quand même, hein. Dans un pays comme la France, 60 ans après, vous allez avoir Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui aura une zone totalement désertique, comme Goussainville l'a été il y a 60 ans pour l'aéroport de Roissy. C'est une honte absolue, mais ce n'est pas grave. On n'a pas du tout appris de l'histoire, visiblement. Et donc, alors, on va même pas parler d'urbanisme. On va juste parler des accès aux gens qui vont, enfin, des gens qui vont continuer, qui vont espérer continuer à habiter sur la commune. Aujourd'hui, on a une route, effectivement, qui s'appelle la route de la Bretagnerie, qui est donc une route transversale à la commune, qui est un des rares axes utilisés essentiellement par les Aignanais, sur lequel, entre parenthèses, vous avez fait un comptage en pleine crise Covid. Donc, finalement, c'est facile de dire que c'est un axe secondaire communal. Bon. Sauf qu'il n'est pas utilisé que par les Aignanais. Il est aussi utilisé par les gens de Pont-Saint-Martin, les gens de Bouay, je crois que si le maire de Bouay est présent, des Nantais aussi qui vont travailler. Donc une toute petite route. Déjà, d'avoir espéré faire un scénario A en disant on n'en a pas besoin, ça, c'est une injure à la commune, franchement. On le prend très, très mal. Alors après, vous dites, oui, finalement, on va peut-être le garder. On ne sait pas trop comment on va le mettre, etc. Mais il y a plus grave, encore. C'est l'accès au périphérique nantais et à Nantes, par les Aignanais, par les gens du Sud-Loire, notamment les gens qui habitent sur le territoire de M. Beaublin, et qui passent par la route actuelle qui longe l'aéroport. Aujourd'hui, c'est embouteillé tous les matins, tous les soirs. On sait très bien que le périphérique, on ne peut pas l'agrandir puisque tout ça va être hyper compliqué. Alors on va mettre des transports en site propre, ok. Sauf que quand vous allez mettre des parkings, parce qu'il est prévu des parkings silos avec des arrivées de gens qui viendront de tout l'Ouest, ils ne vont pas venir à pied ni en train. La plupart, ils viennent en voiture. On le sait, il y a plein de parkings privés qui se sont développés. Avec énormément de voitures. Donc, et ça, c'est juste à 5 millions, 7 millions de passagers. Quand on sera au double, voire le triple dans 30 ans, ce sera incirculable. Et on n'a pas d'accès de sortie. Donc, ça veut dire que non seulement vous désurbanisez Saint-Aignan-de-Grandlieu, mais en plus, vous l'empêchez d'être irrigué. Là, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'on ne peut plus construire. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la commune, on a le lac de Grandlieu, donc sur notre commune, avec tous les faits de la loi littorale qui est normalement protecteur, sauf que là, la loi littorale, forcément, nous empêche de construire. Et comme la partie bourg, qui était celle qui était prévue au développement, maintenant va être survolée avec 20 mètres de plus par les avions, la belle affaire, j'aimerais bien en décibels que vous nous disiez, à la fois sur Saint-Aignan, sur Nantes et sur Bouguenay, le fait de que ce soit 60, 80, 70 mètres, 80 mètres, qu'est-ce que ça va changer en décibels ressentis par les habitants? Ça, on ne l'a pas, ça. Et donc, on est amené à avoir un bourg qui va péricliter complètement et qui, un jour, disparaîtra. Alors, si c'est ça l'objectif de l'aménagement du territoire de l'État, c'est que Saint-Aignan-de-Grandlieu, un jour, devienne rayé de la carte et un quartier de Pont-Saint-Martin de Bouay, je ne crois pas que ce soit la volonté ni des élus du Sud-Loire, ni des élus de la métropole. M. Affilé aura à intervenir après. En tout cas, ce n'est pas la nôtre. Et on ne voit aucune solution aujourd'hui de désengorgement avec une progression aussi forte du trafic à terre. Il y a pas, c'est physiquement, hein, c'est physiquement, géographiquement impossible. Voilà. J'étais un peu long, je suis désolé, mais il y a plein de choses à dire. Je dis que j'aurais pu être 2 heures en micro, tellement les choses sont incohérentes à notre avis.
Demande la parole et puis ensuite passe la parole en visio à M. Anthony Lemaire.
Jacques Baudreau, président du César. Non, j'avais plusieurs questions, je dirais plus techniques à poser, mais compte tenu de l'échange, je vais laisser le temps aux représentants de l'État de pouvoir intervenir par rapport à l'intervention précédente. Donc je vais être très court. Simplement, je vais me limiter simplement à une question. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre dans l'explication que l'accès éventuel ferroviaire à l'aéroport avait été conçu, tout au moins présenté par la région. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une homogénéité de vue, ou tout au moins qu'aujourd'hui, ça n'a pas abouti avec l'ensemble des acteurs, à savoir l'État et Nantes Métropole, c'est tout.
Donc,
Monsieur le maire avait demandé la parole. Le président affilié l'a également demandé. Monsieur le maire, à vous.
Oui, c'est bon, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Donc, Anthony Le Maire pour la CGT Loire-Atlantique. On s'intéresse évidemment à l'aéroport en tant qu'équipement structurant du département depuis longtemps. On a été un des premiers acteurs à porter un cahier d'acteurs donc, auditionné par Mme Farge-Viel et par la commission transport du Césaire aussi. Et donc là, dans ce que vous présentez, effectivement, on a des mesures pour les riverains. Bon, après, il faudra les vérifier, effectivement, par rapport à ce qu'on entend des maires concernés. Des mesures pour l'environnement, la même chose. On demande à voir, effectivement, des expertises pour en vérifier la pertinence. Sur l'accès, il y a peut-être des bonnes nouvelles sur le pôle multimodal notamment qui pourrait nous plaire. Donc voilà, on a des choses qui pourraient effectivement aller dans le sens de ce qu'on avait demandé, mais il faudra qu'on en vérifie les réalités. Et par contre, alors à moins que ça fasse l'objet d'une autre partie de la réunion, mais je vois que leur avance donc sans doute, on n'a rien sur l'emploi, rien sur les conditions de travail des salariés de l'aéroport. C'est quand même quelque chose qui est hallucinant quand on va refaire une aérogare, remodifier énormément de choses sur le fonctionnement de cet aéroport. Rien sur le modèle économique pourtant décrié du low cost hein, qui crée ces instabilités sociales et chez les salariés avec des marchés faits par le concessionnaire qui changent sans arrêt d'opérateur et avec... masculisant évidemment les salariés derrière, qui est responsable évidemment d'un tourisme de masse incontrôlé, enfin, donc pour la planète, si on fait des mesures environnementales ici, ça va pas régler celles qu'on au niveau global. Donc voilà, la question, elle est tout simplement dans la concession, quel cahier des charges sur ces questions de l'emploi et pour les salariés. Parce que c'est pas du tout... Vous n'avez pas du tout répondu, pas du tout abordé dans votre présentation. C'est tout.
Merci de votre intervention. Deux demandes de parole, celle de Mme Impériale, la maire de Bougonnet, et celle de Bernard Affilé, le maire de Saint-Herblain, vice-président de Nantes Métropole. Mme Impériale, à vous, et ensuite M. Affilé.
Oui, bonjour. Donc j'ai bien écouté tout ce qui a été dit. J'ai plusieurs questions. Déjà, une question, pourquoi on parle de plus maintenant de vols par accès sud que accès nord? Donc j'aimerais savoir d'où vient cette analyse et pourquoi on en est là. Parce que ça change quand même les choses sur la commune de Bouguenay. Ensuite, j'avais une autre question. On a parlé donc du parking silo, mais là, durant la présentation, à moins que j'ai été inattentive, on n'a pas reparlé de l'histoire du parking silo. Pourtant, c'est quand même aussi assez important. Ensuite, j'aimerais effectivement, mais ça, plus de précision sur les accès et l'anticipation qui est faite pour accéder à cet aéroport. Et puis, je partage quand même, malheureusement, le fait que pour les habitants, on n'aura pas quand même... énormément d'améliorations et j'espère sur les vols nocturnes qu'il y aura véritablement une application des mesures et que les habitants y verront une amélioration. Mais sincèrement, sur Neustrie, les décibels ressentis, il y a évidemment très peu d'améliorations puisque c'est plus sur Nantes ou sur d'autres communes qui sont plus éloignées. Et je pense qu'il y a eu un gros travail quand même derrière, mais qu'il ne sera pas assez concluant sur la moitié de ma commune, qui est Bouguenay, avec des habitants qui sont de plus en plus en détresse et qui, alors ça c'est un autre pan, hein, sont encore plus en détresse concernant leur isolation, leur demande aussi d'exemplarité de l'État vis-à-vis des nuisances qu'ils subissent. Voilà, donc après ces questions de pourquoi au sud de l'existence ou pas de l'avancée sur les accès, je voulais quand même vous faire part de quand même mon inquiétude concernant les mesures de bruit. Et puis aussi, tout bêtement, puisqu'on a interdit les vols nocturnes Déjà, ce n'est pas de minuit à 6 heures. On a aussi, il faut parler de la réduction de 22h30 minuit. Voilà, savoir si, s'il y aura une véritable, un véritable respect de ces exigences, puisqu'on sait que il n'y a pas forcément de sanctions quand on ne respecte pas ces exigences-là. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis vraiment d'essayer de retravailler encore sur les décibels, parce qu'il y a l'histoire des décibels et des décibels ressentis qui changent assez peu pour les deux communes les plus impactées par l'aéroport.
Merci. Le président Raffinet.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ?
Très bien.
Donc, merci pour cette présentation et ces nombreuses questions et prises de position. Quelques petits points de réaction à ce que j'ai entendu depuis le début de la présentation et depuis les questions. Alors, premier élément, on a parlé de transparence, voire même de co-construction. Monsieur le préfet, on en est assez loin en réalité, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et assez souvent ce sont les services de l'État travaillent et travaillent peut-être, enfin travaillent j'imagine entre eux, et nous font part de leur conclusion, même si je dois dire, et il faut l'admettre, que plusieurs propositions sont entendues et parfois reprises. Deuxième élément, en matière d'accessibilité, puisque c'est une question qui semble préoccuper de nombreuses personnes, je dois rappeler que Nantes Métropole, la région et l'État ont conduit conjointement et cette fois-ci en vraiment en travaillant ensemble, une étude sur l'accessibilité de l'aéroport qui a conclu collectivement à une desserte progressive en deux temps, en gros un premier temps avec un bus à haut niveau de service qui viendrait de la gare de Nantes et passant par la route de Pornic avec un trajet final qui reste à préciser et également la création d'une, par la région d'une halte ferroviaire en proximité du domaine aéroportuaire, qui serait également desservi par le bus à haut niveau de service, qui permettrait d'avoir de faire le dernier kilomètre ou les dernières centaines de mètres pour aller jusqu'à l'aéroport. La combinaison des deux permettant aussi de desservir le Pays de Retz et le Nord Vendée qui est desservi par les TER. Et puis, on a bien prévu un pôle d'échange multimodal tout près du terminal, pour une raison assez simple, c'est que les gens qui prennent le BHNS ou d'autres bus, puisqu'il peut y en avoir d'autres, on ne va pas leur imposer de faire 500 mètres à pied pour rejoindre leur bus ou leur chronobus ou tout autre élément. Et bien sûr, il y aura, et je pense que c'est nécessaire, des parkings en ouvrage, et pas forcément parking silo, mais parking en ouvrage, tout comme Nantes Métropole travaille aussi sur l'élaboration d'un P+R sur la route de Pornic, alors on ne sait pas encore exactement à quel endroit, qui pourrait servir pour le bus au niveau de service qui lui passera par la route de Pornic. Et la question, c'est de savoir s'il sert aussi pour les usagers qui viendront à l'aéroport, auquel cas, évidemment, il faudrait une liaison entre ce P+R, ce parking relais, et l'aéroport. Donc, il reste quelques questions en suspens en matière d'accessibilité, mais je pense que les grandes orientations ont été assez largement analysées, choisies et surtout communiquées. Et je pense qu'il y a ici quelques élus régionaux qui l'ont été, qui ont sans doute, qui pourront témoigner à mes côtés. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous quitterai subrepticement sur les coups de 15h50, puisque j'enchaîne avec une autre réunion municipale. Merci.
Merci. Monsieur Lacorte, je vous propose de répondre aux différents sujets qui viennent d'être abordés. Et puis, si besoin est, avant de reprendre la présentation, on prendra une dernière série d'interventions.
Merci à tous pour ces questions qui sont riches et qui abordent de nombreux sujets. Je proposerai peut-être de répondre à Madame Impériale. Madame la maire, vous aviez quatre questions précises. Tout d'abord, s'agissant de l'application des mesures et puis de la RFI sur la Neustrie. On n'a pas présenté les cartes là, parce que c'est peut-être un peu technique pour ce genre de réunion, mais en tout cas, évidemment, l'État se tient à la disposition de vos services pour les présenter dans le détail. Mais ce qu'on voit avec nos nouvelles prévisions et les cartes de bruit qui sont associées, c'est que la zone de la Neustrie qui était qui aurait été sans projet en zone de bruit fort, du coup sort en grande partie de cette zone-là et se retrouve en zone de bruit modéré. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est complètement satisfaisant, mais en tout cas, c'est un mieux par rapport à ce quartier et bien évidemment aussi, comme on est en zone de bruit fort ou modéré, les mesures d'aide aux riverains que l'État a prévues et qui sont en vigueur depuis avril dernier sont sollicitables par les propriétaires éligibles. Alors, s'agissant de votre question sur la répartition des vols à l'atterrissage par sens de la piste, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est une information que nous avions déjà débattue lors de la concertation préalable de 2019. Alors, évidemment, vous n'étiez pas en fonction à vos fonctions actuelles, en tout cas à cette époque-là, mais c'est un sujet que nous avions évoqué et l'État est constant sur cette estimation de ce que deviendra la situation par le futur. C'est lié à des questions de sécurité, des questions aussi de capacité du contrôle aérien à gérer des flux qui vont devenir de plus en plus importants. Donc voilà, on est à votre disposition pour en discuter si vous le souhaitez, mais c'est l'estimation que nous avions faite et que nous maintenons aujourd'hui. S'agissant des accès, plus précisément des parkings automobiles, il y a un enjeu fort aujourd'hui à adapter la capacité de stationnement automobile pour que les personnes qui souhaitent se garer soit en dépose minute, soit en courte durée, soit en longue durée, puissent le faire sans engorger le réseau routier alentour de l'aéroport, comme ça a pu être le cas il y a quelques années maintenant. Alors, pour répondre à cet enjeu, l'État a d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures avec son concessionnaire actuel et a adapté l'offre de stationnement automobile. Ça, c'est une solution de court terme, mais bien évidemment, pour le futur, il faudra avoir des solutions à la hauteur des enjeux, à la hauteur des besoins, avec vraisemblablement des propositions, des candidats qui permettront d'avoir des stationnements sur plusieurs niveaux, comme vous l'indiquiez, en silo. Et pourquoi pas d'ailleurs, c'est un sujet que nous avons discuté avec les services de Nantes Métropole et notamment leurs architectes, pourquoi pas aussi avoir une mixité fonctionnelle sur ces équipements, enfin sur ces constructions, dans la mesure où elles se situeront le long de la VM85, et ce qu'on souhaite absolument éviter, et ça a été dit aux candidats à la concession, ce qu'on souhaite absolument éviter, c'est un effet mur avec des parkings qui seraient très hauts et qui seraient tous alignés le long de la route. Donc il y a plusieurs enjeux. Un enjeu premier qui me semble être de répondre aux besoins de stationnement de l'ensemble des usagers de l'aéroport, et si c'est possible d'ailleurs aussi des employés des entreprises qui sont autour de l'aéroport. Donc il y a une complémentarité à travailler et les candidats sont attendus sur ce point-là. Un deuxième enjeu qui est une mixité fonctionnelle sur ces constructions qui accueilleront des automobiles, mais aussi vraisemblablement sur l'ensemble de la plateforme aéroportuaire. Et nous travaillons là aussi avec les services de Nantes Métropole de façon à ce que les propositions qui seront faites trouvent la meilleure cohérence possible avec les projets qui sont par ailleurs portés par les élus, par la métropole. Et enfin, un enjeu, je dirais, d'insertion urbanistique pour avoir là aussi un aéroport qui s'insère dans son cadre, dans son environnement, à la fois urbain et environnemental. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Monsieur, pour le Césaire, vous interrogiez de la cohérence qu'il pouvait y avoir entre l'ensemble des projets de desserte portés par les collectivités et puis la façon dont ils sont intégrés dans l'appel d'offres. Je pense que le président Affilé a, si je peux me permettre de le paraphraser, parfaitement répondu. L'État et les collectivités ont réalisé une étude stratégique sur l'accessibilité de l'aéroport, laquelle a permis d'avancer d'aboutir à des projets qui sont ensuite repris qui sont maintenant portés par les collectivités, le BHNS, la halte ferroviaire, et l'État, pour ce qui le concerne, a intégré tous ces paramètres d'entrée, si je puis dire, dans l'appel d'offres, de façon à ce que, globalement, on ait une solution puissance publique, État, collectivité, parfaitement cohérente. Donc je n'identifie pour ma part que des choses positives, c'est-à-dire une capacité à travailler ensemble et à faire avancer un projet de desserte au service des territoires. Enfin, j'ai entendu les interrogations, monsieur, de la commune de Saint-Aignan et des élus que vous représentez. Vous le savez, on est à, pardon, monsieur le secrétaire général, mais on est à l'écoute avec le secrétaire général des élus, au travers du groupe contact que préside le secrétaire général, au travers des instances de droit commun, je pense à la CCE, qui se réunit et qui a travaillé, à l'écoute de laquelle l'État s'est engagé. Hein, enfin, nous avons été à l'écoute de la CCE. Et par ailleurs, nous avons aussi pris l'engagement, pas plus tard que la semaine dernière, avec le secrétaire général, de nous rendre sur place, la DGAC et la préfecture, pour présenter aux élus l'ensemble de nos études, des études que nous avons réalisées, les études de routières pour le rétablissement de la Bretagnerie, mais également les études d'impact environnemental dont nous disposons, que nous avons fait spécifiquement en réponse aux interrogations, aux préoccupations légitimes de M. Lemasson. Donc moi, je vous invite plutôt à reporter cette discussion à cette journée de travail qui pourra avoir lieu début octobre, si vous en êtes d'accord. En tout cas, c'est l'engagement que j'ai pris personnellement auprès de M. Lemasson.
Merci. Avant de reprendre la présentation, il y a plusieurs prises de parole ici et M. Nau, le maire de Rosay, en visioconférence. Donc, je vous laisse démarrer.
Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez ? C'était peut-être pas à moi de parler, si, c'est à moi ?
Allez-y, puis ensuite on reprendra la parole.
Ok, bonjour Monsieur le Préfet, bonjour à toutes et tous. Oui, beaucoup de choses ont été dites et que je partage globalement chez mes différents confrères, et notamment ce besoin quand même d'une concertation et d'une transparence absolue. Je n'y reviens pas, ça a été suffisamment évoqué. J'ai juste deux questions supplémentaires à ce qui vous a été posé. La première, c'est que je suis assez dubitatif sur la projection que vous faites liées aux deux approches avec population de plus de 55%, je veux dire une augmentation de 15% de trajectoires d'atterrissage qui vont impacter nombre d'habitants sur ce territoire métropolitain. Et donc, j'émets des réserves, comme ça a été dit tout à l'heure, sur le bruit et sur l'incidence et l'impact que sera sur nombre d'habitants, même si j'ai retenu un bruit, comment dirais-je, modéré sur la ZAC des îles, notamment, et sur 30 mous passant de modéré à faible. Mais ça m'interroge un petit peu, et c'est vrai que je serais aussi demandeur de voir ce que produisent une différence de 50, 4, 70 mètres, 100 mètres de hauteur, réellement et évidemment en toute objectivité. J'ai une autre question qui n'a pas été abordée et pourtant elle est abordée par nombre d'habitants roséens sur le quartier de la Housset qui nous questionne et qui se questionne sur des changements notables de trajectoire au décollage. Visiblement, depuis quelques mois, les trajectoires et le virage n'est pas du tout où il était précédemment. Ça varie de peu, mais si ça varie de peu, ça varie aussi sur l'aide au délaissement, droit à la revente, etc., etc., et qui impacte dorénavant plus de maisons et plus d'habitants. Donc je voulais savoir si c'était normal ce changement de trajectoire au décollage ou si j'ai loupé un épisode, ce que je ne crois pas. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur le maire, on revient dans la salle, si ça ne dépend pas de la structure.
Bonjour, Guillaume Tamar, président des aides pour l'Ouest. Bon, déjà, je voulais saluer le travail d'équilibriste de Monsieur Lacorre. Bon, beau travail. Effectivement, ce n'est pas facile dans cette période. Justement, c'est bien d'avoir des réunions comme ça où on peut se parler. Et il y en aura donc deux ou trois autres, comme ça on va pouvoir échanger. Ça permet de briser la glace et d'éviter, par exemple, des atermoiements sur allongement de piste, pas allongement de piste, dit par des journalistes, comme ça, apparemment, donc là, c'est bien confirmé qu'il y aura un allongement de piste. Moi, j'avais juste deux remarques, je voulais avoir des précisions. Donc, sur le Nantes-Orly, par exemple, j'ai beau chercher sur l'application SNCF, j'arrive toujours pas à trouver des Nantes-Orly à moins de 12h30. Mais par contre, sur les précisions concernant les correspondances, il y aura toujours un Nantes-Le Monde via Orly, ça existe toujours, parce qu'en fonction des interlocuteurs, j'ai du mal à avoir la bonne information. Et puis concernant vos analyses de bruit, est-ce que vous avez pris en compte, est-ce que ça fait partie de votre modèle de calcul, l'apport de futurs avions qui feront moins de bruit dans les années à venir? Je voulais savoir comment ça fonctionnait. Et puis, dernière précision, je voulais avoir une date pour la désignation du futur concessionnaire. Voilà.
Oui, Joël Sauvageac, OCETA. Moi, je serais peut-être un petit peu moins flatteur pour la présentation bucolique qui a été faite du raménagement de Nantes Atlantique. Mais déjà, la première précision, parce que vous vous obstinez toujours à vous faire une présentation à l'horizon 2040, donc je voudrais que vous confirmiez que la concession s'arrêtera donc en 2040. Et si elle va au-delà, est-ce que le plafonnement sera limité aux chiffres que vous annonciez? Parce que vous faites subtilement toujours la différence entre le bruit et le nombre de mouvements qui va de toute façon inéluctablement augmenter et qui va donc, dans le quotidien, devenir de plus en plus pénible pour les populations. Et donc, je suis totalement solidaire des maires de Bouguenay et Saint-Aignan-de-Grandlieu, où effectivement, on va concentrer les nuisances sur ces deux principales communes. Donc, c'est pas qu'un Goussainville que cet État, ce gouvernement du moins, va faire, mais bien deux sur du long terme, sauf si effectivement vous annoncez officiellement que la concession s'arrête en 2040.
Tu veux intervenir?
Merci, monsieur le préfet. Gérard Lefebvre, de l'AXA.
Contrôler de cette réunion parce qu'on aimerait bien aussi les analyser. Voilà, sinon j'avais trois questions, donc une sur la double approche que vous avez indiquée, et j'aurais savoir quelle, je suppose que c'est le service de contrôle de la navigation qui, indiquera quelle est la trajectoire d'approche à utiliser. J'aurais savoir quelle sera la latitude des équipages éventuellement à demander à pouvoir bénéficier de l'ILS. Parce qu'il est vraisemblable qu'on ait des équipages aujourd'hui qui souhaitent bénéficier de la totalité des équipements qui peuvent être embarqués en aide à l'atterrissage et qui demanderont éventuellement, à un moment donné, plutôt de bénéficier de l'ILS plutôt que d'atterrir à vue, quel que soit le temps qu'il fait à Nantes. Ça, c'est relativement important. D'autre part, concernant justement les altitudes de survol, vous avez indiqué qu'on allait augmenter les altitudes de 25 mètres. Il semble qu'on avait fait déjà cette demande, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la dispersion en fait, qui existe aujourd'hui ou dans les approches des appareils, la dispersion en hauteur par rapport à l'altitude qui est théorique en fait, donnée par les appareils de navigation. Parce qu'il est vraisemblable que les appareils ne respectent pas un plan de vol complètement. Plan, etc., et qui peuvent se promener un peu en altitude. Et ça se trouve, les 25 mètres que vous annoncez de bénéfices, en fait, sont relativement aléatoires par rapport à justement cette dispersion en altitude. Dernière chose, concernant l'arrêté du couvre-feu. Dans cet arrêté de couvre-feu, en fait, il est indiqué que les compagnies pourront déroger si éventuellement elles sont dans des dispositions qui ne leur permettent pas de le respecter. Qui sera juge de ce non-respect? Est-ce que l'administration instruira systématiquement des procès-verbaux pour manquement en fait à l'obligation de respect du couvre-feu, ou est-ce que c'est l'administration qui jugera directement en fait de ces manquements? Et j'en profiterai d'ailleurs sur cet arrêté de couvre-feu pour faire une demande que je retirerai à la prochaine commission consultative de l'environnement, c'est de pouvoir avoir la totalité de l'étude d'impact qui a été réalisée par l'administration concernant ce couvre-feu, parce qu'il y a des éléments en fait, qui nous paraissent relativement curieux. C'est-à-dire que dans l'évaluation socio-économique qui est faite, certes, on monétarise en fait, l'ensemble des pénalités en fait, qui sont faites aux circulations aériennes, etc. Mais par contre, aucune monétarisation n'est faite pour les atteintes à la santé. Ce qui me semble, à mon avis, en dehors de toute règle concernant les évaluations socio-économiques. Donc nous demandons en fait à avoir la totalité de cette étude d'impact. Merci.
Le projet d'arrêté de couvre-feu, malheureusement, on ne peut pas vous la communiquer. En fait, et vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, on l'a indiqué, on ne peut communiquer qu'un résumé non technique. Il y a dedans un ensemble d'informations commerciales que nous communiquent les compagnies aériennes. Et c'est bien pour cela qu'on peut faire ce type d'études. C'est-à-dire que on s'engage vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs économiques à ne pas communiquer des résultats qui sont ou des informations qui sont de leur point de vue sensibles. Ça nous permet de réaliser l'étude, d'avoir des mesures qui soient aussi équilibrées que possible. C'est vrai que c'est un exercice d'équilibriste, mais au final, on obtient un résultat, on obtient une étude et on est en capacité de proposer un couvre-feu. Donc voilà, je regrette, mais on ne peut pas vous communiquer cette étude. En revanche, sur le non-respect du couvre-feu, vous posiez la question de savoir comment serait sanctionnée, si je vous entends bien, une compagnie qui atterrirait entre minuit et 6 heures du matin. Eh bien, on a employé dans l'arrêté, hein, qui régira le couvre-feu, une notion de... une compagnie a le droit d'atterrir que si c'est pour des raisons qui sont indépendantes d'elle-même, c'est-à-dire qu'ils lui sont extérieurs. Et cette notion-là, en fait, a été fortement discutée pendant toute la phase de consultation, hein, qui a duré de nombreux mois pour ce couvre-feu, et elle a été fortement discutée, y compris avec les compagnies aériennes, parce que certains la trouvaient trop peu protectrice des compagnies aériennes. En fait, c'est une notion qui est employée en droit européen, en droit des passagers. Il y a une directive qui emploie ce type de notion et elle est largement documentée par la jurisprudence de la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est une notion par nature évolutive et assez protectrice, non pas des compagnies aériennes, mais de fait, du coup, des riverains. Ça, c'est déjà sur le fond. On a un arrêté couvre-feu qui est très protecteur et je pense que ce sera... vraisemblablement l'un des plus protecteurs de ce type en France. Deuxièmement, si malgré tout une compagnie ne respecte pas le couvre-feu, à ce moment-là, l'autorité de surveillance de la sécurité, qui surveille aussi le nombre de mouvements sur l'aéroport, constate qu'il y a un atterrissage dans les heures qui ne sont pas permises, vérifie les éléments de justification proposés par la compagnie aérienne et les transmet en cas de manquement à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires qui, elle, dispose des pouvoirs de sanction et concrètement, elle peut mettre des amendes à la compagnie à partir du moment où elle aurait été en infraction. Donc, si vous voulez, on a un dispositif quand même qui a plusieurs étages, qui est très complet et qui, je pense, répond à l'ambition qu'avait posée l'État et qu'avaient d'ailleurs aussi posé les élus dans notre rôle d'avoir un couvre-feu protecteur des riverains. C'est bien ce à quoi, je pense, nous aboutissons. S'agissant de la dispersion, effectivement, vous avez raison, les avions ne suivent pas une trajectoire théorique, linéaire, complètement parfaite dans l'espace. Il y a un peu de dispersion autour de cette trajectoire réglementaire, on va dire. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les études qui permettent de vérifier comment sont dispersées les trajectoires réelles autour de cette trajectoire théorique. En tout cas, on a ce type d'études pour justement la Chauvrelière. On a le virage de la Chauvrelière. On a pu faire déjà ce type d'études. Pour le règlement Nantes-Atlantique, c'est trop tôt par rapport au stade de développement du projet. On n'en est pas encore là. Mais lors de l'enquête publique sur la modification des trajectoires, ce sera une obligation réglementaire que de porter devant le public un certain nombre d'informations sur ces sujets. Vous avez raison. Il est normal que l'État explique les choses. Donc ce sera fait. Ce sera fait un peu plus tard, mais voilà, pas dans l'immédiat. Comment ? Je vous indique aujourd'hui simplement qu'on a une réduction du bruit par rapport à la situation sans projet en indice moyen. C'est ce que je vous indiquais en fait. Hein. Il y a plusieurs mesures du bruit. Je pense qu'on on peut éventuellement en discuter entre spécialistes. Mais il y a plusieurs mesures du bruit. La mesure du bruit aujourd'hui qu'on vous présente, c'est celle qui prévaut pour réglementairement pour les plans d'exposition au bruit. Donc c'est un bruit pondéré. On regarde le bruit moyen le jour, on regarde le bruit la nuit. Le bruit de la nuit est pondéré, multiplié par 10, puisqu'il est, on va dire, grosso modo 10 fois plus gênant que le bruit de jour. Et à partir de ça, on a une sorte de moyenne, de bruit moyen, réglementaire. Et c'est ces cartes-là qu'on a représentées. Alors après, les cartes, je ne vais pas vous faire l'injure de dire que vous n'êtes pas capable de lire une carte, loin de moi cette idée. En revanche, je pense qu'on n'aura pas le temps, dans une réunion comme celle-ci, de regarder point par point, quartier par quartier, territoire par territoire, les cartes. Et c'est justement la proposition qu'on faisait avec le directeur des territoires et de la mer, de pouvoir, avec les uns et les autres, soit les communes, soit les associations, regarder ensemble les cartes et vous expliquer, à l'occasion d'une réunion spécifique, la façon dont le bruit évolue. Je pense que ce sera mieux adapté, me semble-t-il, qu'une réunion un peu comme celle-ci, où on aborde quand même de nombreux sujets. Pour Monsieur Sauvager, oui, je vous rassure, je vous confirme, la concession, c'est bien une concession de 40 ans. Donc ça, l'État est constant, on l'a annoncé, c'est dans l'avis d'appel public à la concurrence. En revanche, je vous confirme aussi, je crois qu'on avait dû en discuter ensemble par téléphone, mais moi, je ne suis pas aujourd'hui, le DGAC ne sait pas faire des prévisions au-delà de 20 ans. Déjà, 20 ans, c'est un horizon de projection, de prévision qui comporte de nombreuses incertitudes. On l'indiquait, il va y avoir des ruptures technologiques, comme le disait M. Dalmar. Aujourd'hui, on intègre dans nos prévisions de flotte, par exemple, les A320neo, donc qui ont une meilleure performance environnementale que les A320. Donc on a des hypothèses sur le taux de pénétration de ces avions dans la flotte à l'horizon 2040. Néanmoins, on a aussi d'autres hypothèses, qui n'ont pas d'effet sur le bruit, mais qu'on pourrait aussi regarder sur les impacts environnementaux. Typiquement, l'incorporation de biocarburants aéronautiques durables à compter de 2025 et au-delà, le développement et l'industrialisation de ce type de biocarburant. On a aussi des incertitudes sur les ruptures technologiques. Aujourd'hui, le secteur annonce une rupture technologique autour de l'horizon 2035 avec l'avion à hydrogène. Je disais dans la presse récemment que Safran s'engage résolument dans cette voie-là et devrait proposer des solutions qui auront vraisemblablement à partir de 2035 un déploiement commercial, industriel. Donc vous voyez. Je ne vous ai pas compris, pardon ? En tout cas, les néos, par définition, sont moins brillants. Après, l'avion à hydrogène, je suis d'accord avec vous, il y a un sujet à étudier précisément, les performances en termes d'émissions de CO2 notamment et de polluants, puis un sujet d'émissions de bruit qui peut être différent. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que je vais citer ces exemples-là pour montrer que l'exercice d'anticiper ce que pourrait être le futur à horizon plus 20 ans, c'est un exercice quand même compliqué, complexe, et personne ne peut vous dire aujourd'hui avec certitude la façon dont la situation évoluera. Donc on peut faire de la prospective, on peut faire des scénarios, c'est ce à quoi nous sommes attachés. C'est pour ça qu'on a là aussi des incertitudes. Enfin, on met des fourchettes sur les chiffres qu'on annonce.
Prospective de 15 millions par an.
Non, l'État n'a jamais annoncé l'objectif de 15 millions de passagers. Ce que nous avons demandé, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, qu'on se comprenne bien. Aujourd'hui, nous estimons qu'on aura entre 10 et 11 millions de passagers en 2040 et 77 000 mouvements d'avions. Ça, c'est la projection actualisée qu'on vous présente. Et c'est à l'horizon 2040. Comme on se le disait, la concession durera au-delà. Et au-delà, moi, je ne sais pas, réellement, je ne sais pas faire un exercice de prévision de trafic au-delà de plus de 20 ans. Donc, ce que nous avons demandé au concessionnaire, c'est de prendre des dispositions en termes d'aménagement de sa plateforme pour qu'elle demeure compatible avec l'accueil à très long terme, de 15 millions de passagers, si c'est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que nous, on estime que c'est nécessaire et qu'on sait même vous dire si ça sera nécessaire. On n'en sait rien. Par contre, on ne veut pas injurier l'avenir. Si demain, on a de tels besoins, ce serait quand même dommage d'avoir investi autant d'argent pour réaménager un aéroport et qu'on ne puisse plus le faire évoluer. Et d'autant plus que, encore une fois, à cet horizon-là, on aura certainement des améliorations technologiques, selon qu'on est optimiste ou pessimiste. Enfin, en tout cas, moi, je fais le par choix, je suis plutôt optimiste et je me dis que je crois en le progrès technique et je me dis qu'on aura des améliorations des trajectoires d'approche, on pourra avoir certainement des approches courbes, on aura certainement un avion décarboné et donc toutes ces évolutions font que on pourra avoir à la fois une croissance du trafic, en tout cas c'est ce qu'on espère, et un moindre impact pour les populations et pour l'environnement. Il y avait d'autres questions. Oui, monsieur le maire de Rezé. Vous mentionniez, monsieur le maire, des observations qui ont été faites, ou en tout cas des questions sur une éventuelle modification des trajectoires des avions. Moi, je tiens à vous dire, alors très sincèrement, depuis 2014, les trajectoires des avions n'ont pas été modifiées avant l'Atlantique. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, pour faire une modification des trajectoires, ça passe par une enquête publique. D'abord, il y a des études de sécurité, des études de navigation aérienne, des études environnementales, une enquête publique, et ensuite, on peut entrer dans la modification et la mise en œuvre de ces modifications de procédure, d'approche. Donc, bon, il n'y a pas eu de modification. Pour autant, il peut y avoir des pratiques de certaines compagnies, je n'en sais rien, qui ne seraient pas conformes à ce que prévoient les procédures en vigueur, applicables. Moi, ce que je vous invite à faire, ou en tout cas les personnes qui font de telles opérations, on les invite à signaler ça auprès de l'autorité de surveillance, auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile, qui ensuite transmet les manquements éventuellement constatés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'autorité de contrôle de l'agence aéroportuaire. En tout cas, on peut s'engager de notre côté à faire des vérifications. Si vous avez des éléments précis, un événement à tel jour, telle heure, j'ai vu tel avion qui me paraissait voler en dehors du couloir habituel, nous, évidemment, enfin, la DGAC, évidemment, vérifiera de quoi il en retourne et transmettra aux autorités compétentes, s'il le faut, le dossier. S'agissant de l'autre sujet qui était la répartition par QFU, effectivement, je vous fais la même proposition, enfin, la répartition des atterrissages par sens d'utilisation de la piste. Je fais la même réponse que tout à l'heure au monsieur de l'accent. On se tient, la préfecture, la DDTM et la DGAC, à la disposition des collectivités pour vous montrer concrètement quel impact ça a en termes de bruit, en termes de simulation de ce que deviendra après sa révision le plan d'exposition au bruit et donc l'impact pour les territoires. Globalement, moi, ce que je tiens à vous dire aussi sur l'ensemble de ces sujets, c'est que j'ai été quand même très marqué en 2019 par la concertation préalable où de nombreuses parties prenantes et de nombreuses associations et de nombreux particuliers sont venus dire à l'État il y a un aéroport et on ne veut pas qu'au travers de cet aéroport, on joue les territoires les uns contre les autres. Et donc, essayer de trouver un ensemble de mesures qui répartissent du mieux possible le bruit de façon aussi équitable que possible et qui permettent de le réduire. Et c'est vraiment ce à quoi on s'est attaché. L'État n'est pas là pour faire monter un territoire ou privilégier un territoire contre un autre, pas du tout. On a essayé, au travers d'un ensemble de mesures qu'on vous a présentées, d'avoir une approche aussi équilibrée que possible. Les résultats en termes de quart de bruit qu'on vous présente en sont, je l'espère en tout cas, la traduction, et on pourra vous le montrer à l'occasion de réunions spécifiques. Mais en tout cas, il nous semble aujourd'hui qu'on arrive à atteindre une forme d'équilibre, en tout cas une forme de maîtrise des nuisances sonores. Et tout ça, on va peut-être le voir maintenant, se traduit aussi par une politique d'accompagnement des riverains qui sont, eux, exposés vraiment à des nuisances, en zone de bruit fort notamment.
On a prévu un deuxième temps d'échange dans quelques minutes, où je vous propose d'attendre. On va reprendre le fil de la présentation et puis on rouvrira un deuxième temps d'échange. Merci.
Oui. Alors, il n'y a pas de dérogation, en fait, hein, monsieur. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on appelle des minima météorologiques, c'est-à-dire de seuil, il y a un certain nombre d'indicateurs de navigation aérienne qui permettent de savoir à partir de quand une trajectoire, la trajectoire par beau temps est utilisable, ou à l'inverse, à partir de quand on doit basculer sur l'autre trajectoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui étudié, qui est déjà peut-être...
Pardon. Rapidement, oui, s'il vous plaît.
Peut-être que le SNA peut vous répondre.
Donc, il sera précisé dans les publications aéronautiques que l'ILS ne pourra pas être donné sauf situation d'urgence si on n'est pas dans les conditions où il doit être utilisé en procédure accélérée.
Oui, juste avoir une précision sur les autorités compétentes qui ont donné leur accord pour préciser cette